Alors, je vais appeler Christophe Rauque, Rémi DeVos et Dominique Lullier à me rejoindre sur cette scène. En remerciant une fois de plus Adrien et Catherine pour cette lecture, les textes de Rémi. Alors, cette première table ronde, elle s'appelle « Vivre et exister au travail ». Quand le théâtre interroge les relations au travail, de quoi témoigne-t-il? Alors, c'est un peu une forme de provocation, parce que quand on a écouté à la fois Bérénice dans son introduction et quand on écoute à la fois les trois textes qui sont proposés à la lecture, les textes de Rémi, on a du mal peut-être à se représenter en quoi les gens peuvent encore exister et vivre au travail. C'est toute la difficulté. Avant de passer la parole à Dominique, je vais vous présenter très rapidement tous les trois, même s'il y a beaucoup de monde qui vous connaissent. Donc à ma droite, Dominique Lullier, qui est professeur, tu es professeur émérite au Centre de recherche sur le travail et le développement, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Tes travaux de recherche portent essentiellement sur la santé et le travail, avec de nombreux ouvrages publiés, Placardisé en 2002, Clinique du travail en 2006, Qualité de travail, qualité du travail en 2014, Que font les 10 millions de malades en 2016. Et tu as également co-organisé, parce que je pense que ça a à voir aussi avec notre sujet d'aujourd'hui, deux colloques. Tu as organisé beaucoup de colloques, mais ces deux-là sont particulièrement pertinents pour nos sujets d'aujourd'hui. En 2015, un grand colloque international Travail et créativité, sur la question de la créativité dans le travail, au travail. Enfin, c'est plus complexe que ça. Il y a un magnifique actes qui sont publiés chez RS. Donc, c'est un gros bouquin comme ça. Passionnant, et un deuxième colloque qui était un peu adossé à celui-là finalement, dans son sujet, en tout cas qui le complétait bien, le travail créateur, en mars 2018, au Conservatoire national des arts et métiers sur le travail des artistes, le travail artistique. Voilà. Rémi DeVos au milieu, vous êtes auteur, vous écrivez pour le théâtre depuis plus de 20 ans, vous avez consacré une partie de votre œuvre, on l'a compris, au thème du travail, une vingtaine de textes depuis Débrayage en 1995, me semble-t-il, une vingtaine, ça veut dire peut-être un peu plus. Et depuis 2012, me semble-t-il, vous travaillez régulièrement avec votre voisin de droite, Christophe Rauque, qui vous a commandé 6 textes, dont 3 traitent du travail, dont le dernier, Départ volontaire, a été monté par Christophe au Théâtre du Nord cette saison. Et enfin, Christophe Rauque, vous êtes metteur en scène, directeur du Théâtre du Nord, Centre dramatique national de Lille, Tourcoing, Hauts-de-France. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez débuté votre carrière comme comédien au Théâtre du Soleil, avant de vous former à la mise en scène et de prendre successivement la direction du Théâtre du Peuple de Bussan, puis celle du Théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis, et enfin celle du Théâtre du Nord depuis janvier 2014. Voilà pour les présentations. Moi, je m'appelle Nicolas Naudet, je suis directeur de Travail et Culture. Je ne l'ai pas dit, mes collègues me disent toujours, tu as ni des débats, tu ne te présentes jamais. Donc voilà, c'est fait. Donc Dominique, on a entendu dans l'introduction de Bérénice et puis dans les textes, dans les trois textes qui viennent d'être cités, d'être lus en fait, les personnages qui s'expriment disent quelque chose dans la langue qui est celle de Rémi, qui utilise le ressort de la comédie aussi, du rire, on en reparlera tout à l'heure ensemble, ils disent quelque chose de la condition de l'homme avec un grand H au travail, sa difficulté d'y exister et d'y vivre. Et donc, c'est là-dessus que j'avais envie de t'entendre, en fait, sur qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les personnes. Alors, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est complètement impossible, comme ce qu'a fait Bérénice. Hein. Qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui d'exister au travail ou dans leur travail ou par leur travail? Je te livre la question.
Merci. Bonjour à tous. Et merci aux organisateurs de cette belle initiative. Théâtre et travail, quand le travail entre en scène. Quand le travail entre en scène, peut-être il rentre en scène à partir de la question des représentations artistiques du travail, caisse de résonance des représentations sociales. Les représentations sociales, elles sont largement plombées du côté du négatif du travail. Le travail, comme chacun le sait, c'est pas bon pour la santé. Et donc d'une certaine manière je me suis demandé si la consigne qui m'était donnée j'étais vraiment ravie de la consigne traiter de la question de l'exister au travail si finalement c'était pas une sacrée ineptie est-ce que la question de se porter à l'existence dans le travail en fait c'est complètement antinomique. Ou peut-être pas tant que ça, mais alors à quelles conditions? Donc, Honnêtement, je pense que je ne vais pas faire la liste des empêchements à l'exister dans le travail. Là-dessus, les ressources sont pléthoriques. Dans l'actualité, on a parlé du procès de France Télécom. Ça peut aller très très loin, hein, jusqu'à. Alors on va discuter la mise en danger de la vie d'autrui ou l'homicide involontaire. C'est pas ce qui a été retenu, mais enfin, bon, jusqu'au suicide. Au-delà de cet exemple-là, il y a de pléthore de films. Je pense aussi de pièces de théâtre, d'articles de presse, de travaux dits scientifiques sur la multiplication des formes de souffrance au travail. Ça peut aller du classique au classique, hein, en termes de, par exemple, d'accidents du travail, en passant par les maladies professionnelles, le développement aujourd'hui très manifeste de l'usure prématurée, au point d'ailleurs que les médecins du travail ou les médecins de prévention se sont vus ouvrir un nouveau chantier qu'on appelle la prévention de l'usure prématurée ou la prévention de la désinsertion professionnelle. Comment, dans un tel contexte, oser penser et parler d'un tel sujet ? Est-ce que c'est une provocation ? Est-ce que c'est un doux rêve ? Est-ce que je suis contaminée par les nouvelles orientations managériales qui nous proposent des recettes de bonheur au travail ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'entends bien que, effectivement, le travail, et pas seulement le travailleur, mais c'est peut-être très lié, le travail est de plus en plus manifestement maltraité, notamment par la prévalence des logiques financières qui ne regardent plus le travail, qui n'en connaissent strictement rien. La mondialisation des marchés, cet impératif de réduction des coûts qui est toujours synonyme de réduction des effectifs. Bref, d'une certaine manière, on va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il suffit, là aussi, je vais vous faire l'économie du détour par le tripalium. Enfin bon, d'origine, au plan étymologique, le travail est toujours associé à des notions de peine, d'effort, pénible, de malheur, etc. Ce fil-là court toujours avec des dispositifs d'exploitation, d'aliénation qui s'attachent au travail, qui s'attachent à l'appropriation de son produit par les classes dominantes. Bon, tout ça a fait l'objet de pléthore d'analyses, mais aussi, et c'est essentiel, de luttes sociales. Le travail, c'est vrai, et encore que peut-être faudrait-il s'arrêter un temps pour préciser ce qu'on entend par travail, parce que dans le contexte, on a un peu le sentiment qu'on confond le travail avec le salariat, le travail salarié. Est-ce que, par exemple, dans nos analyses, on intègre le travail domestique, le travail syndical, le travail associatif ? Bon, je ferme cette parenthèse. Le travail productif, au sens où on l'entend aujourd'hui sous la forme dominante du salariat, s'inscrit effectivement dans un rapport social de domination. C'est une vieille histoire qui a peut-être commencé par l'esclavage, le servage. C'est bien là la figure inversée, c'est vrai, de la liberté, de la possibilité même d'exister, d'exister comme sujet singulier, désirant et résistant. Pourtant, je pense vraiment que si on s'arrête là, ça ne va pas le faire, comme on dit aujourd'hui, parce que la réflexion, elle empêche de voir l'autre face du travail, et peut-être qu'effectivement la notion d'ambivalence ici est massivement à retenir, pas simplement pour les artistes, mais d'une manière plus générale, un rapport ambivalent au travail, puisque le travail, c'est aussi et fondamentalement un acte producteur, mais pas seulement de production d'objets ou de production de services répondant à des commandes, à des prescriptions. C'est aussi un acte de production de subjectivation et de lien social. Autrement dit, sauf bien sûr à abandonner tout projet de subversion du travail, on ne peut pas le définir seulement négativement. On ne peut pas le définir seulement comme la contrepartie d'un salaire contre une contrainte de présence et d'obéissance. Le travail suppose effectivement toujours un investissement. Alors on va dire que l'investissement est massivement un piège, en même temps qu'il est insoutenable de venir travailler pour ne pas travailler. C'est-à-dire de venir travailler en étant dans une forme d'économie de soi, de refoulement de ses engagements et de ce qui est en jeu dans le rapport à l'activité de travail. Les nouvelles organisations et les formes de gestion du travail peuvent, c'est vrai, et on le sait fort bien, rendre le travail aujourd'hui totalement invivable. C'est notamment le cas quand l'activité perd à la fois son sens et sa valeur sociale. Alors, à ce moment-là, on ne vit plus au travail, on se contente, mais en général, on le paye très cher, on se contente de vivre de son travail. On a ce qu'on appelle un travail seulement alimentaire. Pourtant, il y a des enjeux extrêmement importants, puisque, je le répète, travailler, c'est aussi produire et affirmer son existence, ou pour le dire autrement, persévérer dans son être. Parce que le travail, c'est justement une affaire d'existence. Évidemment, pas un état de bonheur, de plénitude béate et définitive. Ce n'est pas du tout ça le scénario. On est bien plutôt du côté de la quête, mais aussi de la conquête, d'une exigence intérieure d'être, et donc d'abord et essentiellement de dire non. Parce que ça commence comme ça, y compris au moment de la construction du sujet dans toute son histoire. Être un sujet, ça suppose de se dérober aux assignations de place, au travail comme ailleurs, et ça tout au long de la vie. Alors c'est sur cette voie qu'on peut rencontrer de multiples manières, mais souvent effectivement de manière suffisamment discrète, suffisamment ténue, pour que ça ne se donne pas à voir si on ne s'intéresse pas à l'activité. Parce que dans le travail, il y a centralement cette question de l'activité. Le travail n'est pas qu'un rapport social. Nous ne sommes pas au travail seulement pour être ou combattre les uns contre les autres, mais aussi pour faire quelque chose. Il n'y a de faire quelque chose qu'ensemble. Et se faire quelque chose porte sur un segment de la réalité qu'il s'agit de transformer. Autrement dit, c'est jamais des rapports strictement interpersonnels. Il y a toujours un tiers dans cette affaire. Et ce qui change beaucoup de choses, mais ça n'est visible que si on s'intéresse à la question de l'activité ou de l'acte, qui est toujours aussi fondamentalement tricoté avec la question de l'action et de la praxis. J'y reviendrai. Je vais reprendre brièvement une formule qui est pas de moi du tout, hein, qui est de Yves Schwartz. Yves Schwartz est un philosophe du travail qui a écrit un bel article qui a pour titre « Le travail comme usage de soi ». Alors, cette formule, elle est intéressante parce qu'elle est, elle est tout à fait équivoque, puisqu'on peut entendre le travail comme usage de soi de deux façons. C'est bien sûr l'usage que les autres font de nous au travail, de chacun d'entre nous, l'employeur, l'encadrement, etc. Mais au travail, il est aussi toujours question de l'usage de soi par soi, c'est-à-dire la façon dont chacun fait usage de soi-même au travail. C'est peut-être là aussi une autre manière, une manière un peu décalée, d'aborder la question de l'hétérodétermination et de l'autodétermination dans le travail. L'ergonomie, mais aussi la sociologie du travail, nous ont appris maintenant depuis bien longtemps que la tâche n'est pas l'activité, que le travail prescrit, ce qu'on nous dit que nous devons faire, n'est jamais le travail réel, ce que nous faisons effectivement. Dans ce décalage irréductible entre ce qu'on nous dit de faire et ce qu'on fait effectivement,
se loge centralement cet usage de soi au travail, pour soi et pour les autres, et pas seulement pour l'employeur. Bien évidemment que nous ne travaillons pas seulement pour l'employeur. Dans le travail, il est possible de développer, à certaines conditions bien sûr, une activité qui nous construit, qui nous permet de réaliser des aspirations qui nous soient propres, qui nous permettent de découvrir et de nous découvrir. Autrement dit, il n'y a pas de travail d'exécution, il y a toujours, toujours, toujours résistance à la subordination, à la désappropriation, aux assignations, et notamment à toutes celles qui nous ravalent au rang d'instruments d'exécutants. Ça passe par la manière de redéfinir la tâche, ça passe par la manière de redéfinir les façons de faire, les buts poursuivis, ça passe aussi par l'évaluation que nous faisons de notre travail ou de ce qui nous est demandé. Autrement dit, sauf à ne voir le sujet qu'une éponge absorbant toutes les contraintes qui pèsent sur lui, il nous faut quand même aussi pouvoir penser dans quelle mesure le sujet est capable de penser, de décider, d'arbitrer, d'apprécier ce qu'il convient de faire dans une situation donnée en fonction de ses buts propres. Une autre précision concernant l'activité, quand on parle d'activité, c'est vrai qu'on parle d'activité au sens d'activité propre, personnelle et personnalisante. Je fais référence ici à Toscaïès, qui est un psychiatre, un des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle. Toscaïès dit, je vais le citer là, parce que je pense que c'est suffisamment clair dans cette phrase, il ne faut pas confondre le concept d'activité avec la simple prestation de mouvement, voire d'effort consentant d'application et d'endurance, soumis au désir du maître d'école ou du maître d'œuvre. Activité veut dire activité propre, activité qui part et s'enracine dans le sujet actif pour s'épanouir le cas échéant dans un contexte social. Il poursuit en disant, on peut concevoir une école ou un hôpital psychiatrique où tout le monde s'affaire et où se manifeste une sorte de bougeotte, mais sans qu'aucun malade ni qu'aucun enfant ne mette en jeu aucune activité propre. Alors, on pourra dire, du coup, si vous voulez, que l'activité est refoulée, contrariée, empêchée, quand le sujet ne peut pas y mettre de lui-même, quand il est contraint par l'impossibilité qu'il a de par l'absence de marge de manœuvre, quand il est contraint, quand il n'a plus les moyens de singulariser son mode opératoire, quand il ne peut plus se reconnaître dans ce qu'il fait, ou pire encore, quand il se voit faire des choses en fait qu'il réprouve, parce que contraire à ses propres valeurs. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le monde du travail, il y a deux figures opposées, bien contrastées. Il y a ceux qui seraient, on va dire, dans le surtravail, dans un contexte de pression temporelle et de compétition suractivité, intensification du travail, etc. etc. Mais il y a aussi, et peut-être de cela on parle beaucoup moins, en tout cas du côté des sciences du travail, il y a un silence assourdissant sur le chômage. Les chômages ne seraient plus des travailleurs, ils sont tombés dans une poche d'oubli, très peu de travaux, par exemple, sur la santé des chômeurs. Dans les deux cas, il y a une même amputation de l'activité propre. Ça peut être sous la forme d'une activité emballée, qui est ravalée finalement à une sorte de fonctionnement, tel l'exemple, ce texte, très beau texte sur le burn-out qu'on a entendu tout à l'heure. Il n'y a effectivement plus aucune activité propre dans ce qu'on entend là, mais ça peut être aussi bien sûr dans toutes les situations de désœuvrement imposé. Je pense bien sûr au chômage externe, mais aussi au chômage interne, dont on a eu, me semble-t-il, une illustration tout à l'heure. En général, quand on demande à quelqu'un d'agrafer des dossiers qui ont essentiellement pour destinée la poubelle, c'est que le placard est là. Hein. Il y a des stratégies de sortie du placard, diverses et multiples. J'imagine qu'on y reviendra. Il y a en tout cas quelque chose qui m'a paru très, très, très fort et très juste dans les textes qu'on a entendus, en tout cas dans certains d'entre eux, c'est le fait que le cliver le travail des autres activités dans lesquelles nous sommes engagés est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. La vie, nos vies, repose sur une unité économique fondamentale. Alors, quand je parle d'unité économique, hein, c'est au sens d'unité, c'est au sens d'économie pulsionnelle, soyons clairs, mais aussi sur des processus d'intersignification, c'est-à-dire le sens que chacun peut construire, parce que le sens ne se donne pas. Je suis toujours sidérée d'entendre des choses. Il faut donner du sens. C'est pas la messe. Le sens ne se donne pas. Le sens se construit, d'accord. Et chacun le construit. Et il le construit pas simplement à partir de cette sphère réduite à l'ici et maintenant de sa situation de travail, mais à partir d'une histoire propre qui n'est pas non plus soluble dans l'histoire professionnelle, parce que nous menons nécessairement toujours plusieurs vies à la fois, et que le sens du travail résonne, fait écho aux enjeux des autres domaines de vie, et réciproquement. Et ces dialogues, qui est sans doute aussi une façon de mettre en lumière ce qui se joue dans l'intime du travail, qui est exprimé dans la sphère conjugale, par exemple, domestique, familiale. Ce dialogue intérieur est toujours présent. Et à contrario, je pense que dans nos analyses, y compris du côté des sciences du travail, s'en tenir à l'activité de travail et seulement l'activité de travail, c'est risquer finalement de se faire complice, je pèse mes mots, complice, de cette captation qui réduit l'homme au travail à une force productive. C'est justement parce que l'homme au travail ne peut pas être réduit à une force productive que l'analyse de ce qui se joue au travail doit intégrer une perspective plus globale des différents domaines de vie et d'activité. C'est là aussi, bien sûr, où on va retrouver la question du politique. J'ai senti... Et bien sûr, aucun problème. Donc, la conclusion, pour moi, sera assez simple. C'est-à-dire, je vais le faire à la SERP. Dans un monde du travail qui exige l'excellence, la performance, le cadre dynamique au risque du burn-out, etc., etc. Enfin, bref, qui nous joue le film, qui est quand même essentiellement un film d'enfant. C'est du Walt Disney. C'est Wonder Woman ou warrior, je ne sais pas quoi, d'accord ? La revendication continue et permanente de notre fragilité à tous, et non pas bien sûr de la fragilité de ceux qui sont étiquetés fragiles et vulnérables, ça c'est une fumisterie, c'est un pur scandale, donc non pas la vulnérabilité différentielle, mais la vulnérabilité du vivant, la vulnérabilité ontologique, la vulnérabilité humaine, la revendiquer comme telle, ce qui implique du coup de prendre un peu de distance par rapport aux stratégies dans lesquelles nous sommes tous engagés de mise en scène de soi, où nous devons préserver par devers nous nos difficultés, nos failles, nos préoccupations, dans une quête de conformité aux attendus, l'attendu étant essentiellement l'initiative, la performance et la réactivité. Lâchons le personnage. Je vais terminer donc par cette salariée qui est malade, parce que les malades, de plus en plus nombreux dans le monde du travail aujourd'hui, portent un regard extrêmement pointu sur ce qu'ils voient et la critique qu'ils y développent. Cette travailleuse malade donc revendique ce rôle, je la cite, hein, de régulateur d'humanité dans notre société. On n'est pas des robots. Dans le monde du travail, il faut juste être efficace et rien d'autre. Mais ils ne voient pas comment on a été enrichi par la maladie. Quand on a été malade, on a une force bien supérieure à avant. Il y a une richesse des gens malades, une force de vie. On met plus d'humains dans nos relations, y compris dans les relations professionnelles. Les malades, finalement, c'est une sorte de thermomètre. Les autres dénient, fuient. Mais c'est faux, bien sûr. Ils ne sont pas invincibles. Aujourd'hui, les gens sont pressurisés au travail, malheureux. Il est temps d'humaniser le monde du travail. Voilà, c'est un vaste programme, j'en conviens. Merci.
Alors, on passe de la scène du travail à la scène du théâtre. Ma première peut-être question ou perche tendue, ça sera à Rémi. Rémi, je l'ai dit, vous avez publié une vingtaine de textes sur le travail dans votre œuvre qui est beaucoup plus large que ça. Depuis 1996, Débrayage, si mes souvenirs sont bons, ça va être le premier texte édité là-dessus. Ma question, c'était de savoir pourquoi et comment, en fait, un auteur de théâtre choisit d'aller essayer de saisir ce motif du travail qui n'est pas un motif très aimé par le théâtre en général. Enfin, on y reviendra. Je pense que Gilbert, tu pourrais y revenir largement. Donc, pourquoi est-ce qu'on se saisit comme ça? Et est-ce que votre écriture, elle s'est transformée aussi avec les transformations du travail? C'est-à-dire qu'entre Débrayage et aujourd'hui, il s'est passé quand même quelques années, entre Débrayage et Départ volontaire, est-ce que cette forme d'écriture, elle a aussi évolué avec les transformations du paysage du travail?
Oui, sans doute. Moi, j'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai travaillé très vite. À l'âge de 16 ans, j'ai travaillé. J'ai repensé en vous écoutant que ça a été évidemment très important parce qu'à 16 ans, je travaillais dans des supermarchés l'été où travaillait ma mère. 16, 17, 18 ans. Et ça a été un âge l'été très important parce que les caissières partaient en vacances pendant un mois et c'était leur fille et ou leur nièce qui prenait la place. Et donc, c'était un champ d'été extrêmement, en même temps, érotique, le travail. Et la consommation même du supermarché, et moi qui mettais les palettes de trucs en rayon, ça a été, je rentrerai pas dans les détails, mais ça a été très important. Tout de suite, le travail a été quelque chose qui m'a marqué. Autre problème avec ce qu'on a pu entendre, le travail, c'est évidemment quelque chose d'un peu sérieux et même qui peut être un peu rébarbatif. Et moi, j'écris des choses qui font souvent rire le public et c'est diversement apprécié. Enfin, pas le public rit, mais c'est diversement apprécié parce que par nature, je peux pas m'empêcher non plus de d'insuffler de l'humour et même des fois du comique. Et bon, je suis par chance joué assez à l'étranger pour savoir qu'il y a des problématiques très françaises qui font que c'est compliqué, tout simplement. Voilà, il y a vraiment parler du suicide en entreprise et qui est une dimension entre guillemets drôlatique ou dans d'autres pièces, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Moi, j'ai toujours écrit sur le travail parce que ça m'a paru aller de soi. Je suis un comédien raté. J'ai voulu prendre des cours de théâtre. Je travaillais la nuit d'ailleurs pour me payer les cours à Paris à 19 ans et donc ça n'a pas fonctionné. J'ai toujours travaillé jusqu'à 30 ans où j'ai commencé à écrire et ça faisait une dizaine d'années que je travaillais en entreprise un peu à droite à gauche. C'était souvent des métiers que je gardais comme j'avais eu qu'un bac littéraire. Ça, autant vous dire qu'en intérim ça allait très vite. Donc j'ai été déménageur, ambulancier. J'ai fait beaucoup de métiers donc j'avais une vraie connaissance de ce fameux monde du travail dans lequel, a priori, j'évoluais et je devais pas sortir. Mais il s'est passé une chose étonnante, en tout cas pour moi, c'est qu'une amie m'a demandé d'écrire des sketchs, des dialogues, et j'avais une petite chose avec ça, et ça a donné Débrayage, et c'est très naturellement, en parlant de mes entretiens d'embauche, de tout ce qui pouvait se passer dans les entreprises, dans les ateliers, dans les endroits où j'avais pu travailler, il y a des choses très très autobiographiques là-dedans, que j'ai commencé à écrire du travail. Je m'en suis aperçu après. Je pensais pas d'ailleurs que ce serait joué ou tout ça, mais que la souffrance au travail, comme le harcèlement moral en entreprise, je me souviens très bien de ce livre en 2000, où j'avais écrit la pièce en 95 de Etchegoyan, voilà, pour se dire, pardon, excuse-moi, je vois, je sais pas de, mais je me rappelle très bien de ce moment et la pièce qui est assez, marqué dans les milieux des années 90, ça parle de tas de choses qui sont liées, a finalement continué sa route et est encore joué, non plus par l'aspect presque politique, mais par cette histoire de souffrance au travail et avec cette idée que sur des thèmes un peu difficiles, on pouvait aussi rire, ce qui est compliqué. Donc c'était ma première pièce. Je me suis jamais beaucoup intéressé au monde du travail. Je l'ai vécu, je trouve ça comme les uns et les autres, et je trouve passionnant de... Mais je ne lis pas spécialement là-dessus. Par contre, ce qui m'intéressait dans le thème du travail pour le théâtre, et ça je l'ai tout de suite compris, c'est qu'à partir du moment où vous mettez des gens qui vont voir presque plus souvent leurs collègues, les gens avec qui ils sont obligés de travailler, des fois dans une salle, où ils voient plus ces gens-là que leur femme, même, j'exagère, mais ça va poser toutes sortes de problèmes. Ça va poser toutes sortes de problèmes parce qu'on n'est pas obligé de bien s'entendre. Et que les gens, tout simplement, c'est assez bête. Mais c'est des rapports de hiérarchie, c'est des choses de désir, de haine, de choses comme ça. À partir du moment où on enferme les gens, ou enferme, c'est un mot qui est trop fort, mais on les met ensemble, il se passe des choses. Et ça, cette dimension de l'humanité, ça je la perçois, et comme tout le monde, et enfin j'écris vraiment dessus. Alors c'est souvent d'ailleurs des gens qui sont, je n'écris pas que des pièces qui se passent dans le monde, dans le travail, des gens qui sont en train de travailler, c'est souvent des pièces où les gens sont arrêtés et parlent du travail, où il est fortement question du travail. Christophe a monté Cassé, voilà, les gens ne travaillaient pas, ils étaient dans leur problématique liée au travail. Dans Départ volontaire que Christophe vient de monter, oui, là, on est dans le monde de l'entreprise et ça travaille. J'ai tout de suite compris et perçu, et je m'étonne même, parce qu'en 95, oui, effectivement, j'ai regardé autour de moi, et après, j'ai regardé, j'étais inculte, hein, il y avait des pièces de Vinaver qui avaient été écrites un peu plus tôt, mais il y avait très, très, très peu de choses. On travaille à l'école du Nord avec des jeunes gens où je vois que cette problématique du travail est plus, comment dirais-je, ils écrivent, on a des dramaturges à l'école, ils écrivent sur leurs expériences et c'est un peu rentré dans les... Voilà, c'est une chose qui devient impossible. Mais pendant très longtemps, j'ai écrit des pièces où je suis obligé de voir qu'il y avait peu de textes, en tout cas en France, sur cette problématique, ce fameux monde du travail. Voilà.
Allô, oui. Christophe, vous avez commandé deux textes cette saison à Rémy. Et ces deux textes, en fait, les commandes n'étaient pas formulées autour du travail. Il y en a une, c'était « Écris-moi une pièce de procès » sur Départ volontaire. Et la première, « Ben oui, mais enfin bon », qui est un texte qui a été aussi écrit par Rémy DeVos cette saison, était plutôt « Écris-moi un texte pour des jeunes comédiens ». Si c'est des fake news, vous me le dites, mais c'est ce qui avait été un peu écrit. Comment est-ce qu'on se débrouille avec ça, quand on reçoit finalement les textes, et finalement que c'est les deux textes qui parlent du monde du travail, ça parle de bien autre chose aussi, mais ça parle quand même du travail. Et comment on met en scène le travail, pour reprendre notre titre ?
Comment on met en scène le travail ?
Ouais. Parce que vous me parliez la fois dernière au Tête du Nord, sur votre expérience de découverte d'une succursale, d'une banque qui était tout près du Théâtre du Nord, avec des espaces qui étaient transparents. Et ça, c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce que le théâtre s'inspire de façon critique des espaces physiques du travail d'aujourd'hui.
Parce que moi, tout ce que je déteste, c'est le travail cool. C'est la coolitude au travail. Et puis, comme je suis metteur en scène, et puis que je sais regarder, que j'ai un œil, j'ai aussi un peu une oreille, quand je regarde le rapport à l'espace, puisque c'est avec ça qu'on travaille beaucoup quand même, on s'aperçoit de tout ce qui est insidieux dans les espaces cool. Voilà, c'est donc j'ai eu il y a eu une banque non je... ouais je peux être cool mais... non mais je trouve qu'on vit dans un monde formidable. Qu'est-ce que je peux dire, moi aussi j'ai commencé à Moi, j'ai commencé à travailler assez tôt aussi. Je dirige une école, parce que je ne peux pas l'appeler autrement, mais mon cauchemar, ça a été l'école. Les profs, ça a été un cauchemar. Tout ce qui est... En fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était un peu au-dessus de moi, c'était un peu un cauchemar. Donc, il a fallu... C'est un peu une histoire de survie que de faire de la mise en scène, quoi. Et du coup... L'idée de travailler sur la question du travail et surtout de travailler avec de l'humour, parce que vous citiez tout à l'heure des auteurs, où moi je vois pas beaucoup d'humour là-dessus, je vois beaucoup de surplomb chez certains, et ça me gonfle, parce que tout d'un coup je sais pas, je trouve que ce qui est beau dans les textes de Rémy, c'est qu'il donne un visage à des anonymes, et il essaie pas de faire le malin avec des idées et d'enfoncer des portes ouvertes, quoi. C'est ça en fait qui me plaît. Et puis ce qui me plaît aussi particulièrement, c'est que ce qui est sulfureux, c'est le rire aujourd'hui. C'est parce qu'on se moque. C'est aussi parce que il y a des gens qui ont vraiment des portraits, qui prêtent vraiment à la moquerie en ce moment, autour de nous, au-dessus de nous, à côté de nous, comme cette histoire de banque, hein, d'ailleurs, hein, puisque il y avait, c'est assez génial, il y avait même des doudous. Ils ont mis des doudous. Comme ça, si jamais vous avez un... Si vous êtes mal avec votre conseiller de banque, vous allez vous protéger avec votre doudou, quoi. Et non, mais c'est vrai, c'est le Crédit du Nord. C'est juste à côté du Théâtre du Nord. Vous pouvez y aller. Hein. Vous verrez, il y a même des gradins au cas où on vous sert un café. Et puis, il y a des vitres partout, parce que c'est formidable, puisque tout est très transparent. Et en fait, tout ça, c'est pour mieux regarder ce que fait l'autre, quoi. Donc, voilà. Alors, pourquoi le monde du travail ? Oui, voilà, parce que moi, j'ai travaillé. Alors, après, vous vous dites... c'est vrai que... Je dirais que le problème du travail, c'est aussi... c'est pas que le travail, parce que... le travail, ça peut être aussi... c'est sociabilisant, ça peut être joyeux quand c'est concret. Ça peut être aussi une véritable épreuve que de vivre ça au quotidien. Mais j'ai envie de dire que on se construit aussi par le travail, on fabrique des outils, et ce sont ces outils en fait qui nous permettent aussi d'avancer dans la vie. Donc en effet, j'aurais plutôt envie de dire que c'est toute la vision managériale qui a regardé, qui a critiqué, qui a même à condamner, et qui pose problème. Mais en soi, j'ai été élevé par un grand-père qui me disait des choses formidables. Il me disait, un métier, ça s'apprend pas, ça se vole, quoi. Il m'a appris, et il me disait, finir demande un cœur d'acier, quoi. Et c'est des mots qui me restent, moi. C'est des mots que j'essaye de donner à... j'essaie de transmettre ça à mes jeunes camarades de l'École du Nord. C'est-à-dire que je vois bien que... Parce que derrière l'idée du travail, il y a cette grande idée qu'elles sont le métier. Et aujourd'hui, vous parlez du travail, mais aujourd'hui, on ne parle plus de travail, on parle d'emploi. Donc en fait, on perd la notion de travail, mais on perd surtout la notion des métiers. Donc en fait, on n'arrive plus non plus à se projeter... à travers ce que l'on fait, parce qu'en fait, ce ne reste plus que des tâches, quoi. Et il n'y a plus de grandeur à faire passer son métier, même à passer son métier, à passer des outils, à donner des trucs. Moi, j'adore donner des trucs à mes jeunes élèves, des ficelles, quoi. C'est ça, les grands métiers. Donc, ce que je dis souvent, ce que vous parliez tout à l'heure du théâtre, madame, en général... Vous avez en partie raison, mais c'est aussi, c'est peut-être que, je dis souvent, peut-être que le milieu est difficile à vivre, mais les métiers sont des grands métiers. Le métier de metteur en scène est un grand métier, le métier d'acteur, le métier d'auteur, et si ce sont des métiers, alors on les apprend. Et en France, il y a cette histoire que l'artiste, il est relié... On relie l'artiste, non pas à l'artisanat, mais à la vocation. Je veux dire, la vocation, on n'en fait pas grand-chose, quoi. Moi, j'étais super doué pour faire du piano, c'est devenu une horreur, ce truc-là, quoi. Parce qu'en fait, je ne comprenais rien à ce qu'on me faisait faire. Et juste, j'étais un peu doué pour ce truc-là, et j'ai été obligé d'en faire pendant 10 ans, quoi. Parce qu'à chaque fois, on me disait, ouais, mais c'est dommage, t'es doué, quoi. Ouais, mais bon, ça m'a servi à peut-être à avoir une oreille, mais en tout cas, ça a été un champ de torture, quoi. Donc, mais pourquoi en fait ? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi c'est parce que en fait, on n'arrivait pas à me faire comprendre que c'était à la fois un langage, que on pouvait attraper les choses de manière très concrète, hein, parce que en fait l'art c'est concret et la vie artistique, en tout cas les métiers artistiques, passent par des choses qui sont très concrètes, qui sont des outils. Et moi, tout ce que j'essaie de faire, et j'ai eu la chance de travailler avec une grande metteuse en scène quand j'étais acteur, et je lui ai tout volé en fait. Mais parce qu'elle avait des outils. Alors évidemment, ce que me disait mon grand-père, il me disait, mais bon, il ne faut pas aller voler dans les poches vides. Moi, j'ai eu la chance d'aller voler dans des poches pleines, quoi. Donc voilà, donc la question du travail, elle est importante pour moi, surtout dans le monde du théâtre, parce que, non pas que, en fait, je m'en fiche du monde du théâtre, au fond, mais parce que pour moi, le théâtre, c'est un mode d'expression. C'est surtout ça qui est important, et que ça me permet de dire des choses. Et si je fais du théâtre, c'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes acteurs, c'est parce qu'on a envie de crier. Une fois qu'on a envie de crier, après, il faut trouver comment on va travailler ce cri. Et là, c'est là où il faut des outils, hein. Je veux dire, c'est quand on a un chalumeau entre les mains, on ne fait pas comme ça, quoi. On apprend à travailler les gestes. Et je pense que la force du travail artistique, elle est reliée aux gestes que l'on passe et aux gestes que l'on fait. Donc voilà pourquoi j'avais envie de travailler là-dessus. Et puis aussi parce que c'est un endroit dont on parle peu. Parce que c'est aussi un endroit, quand on voit des reportages qui sont quelquefois très très drôles, parce qu'on se retrouve dans le monde du travail à gérer quelquefois des choses qui sont totalement absurdes et qui sont, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que c'est quand même très drôle. Et du coup, ça en devient tragique parce que c'est drôle. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça intéressant, et même si on a eu plein de critiques là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rire de quelque chose qui est soi-disant tragique. Et moi, je pense que c'est parce que c'est tragique qu'on doit en rire. Parce que tout d'un coup, c'est la meilleure façon de pouvoir avoir un regard critique et surtout de rester avec l'impertinence de ce regard et donc, du coup, d'être acéré aussi dans cette volonté de vouloir changer les choses et non pas de se recevoir une énième leçon de ce que c'est que le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il n'y a qu'à voir ici ce que vous disiez tout à l'heure, quoi, hein. Je veux dire, vous parliez des noms, c'est même pas des noms, madame, c'est des marques, certains dont vous parlez, c'est des produits. Vous parliez du metteur en scène, hein. Aujourd'hui, le metteur en scène, c'est pire que ça aujourd'hui, c'est l'image de l'auto-entrepreneur. Je vais même pas dire Macron parce qu'on pourrait parler d'avant, quoi, des autres. Hein, je veux dire, enfin voilà, on va s'arrêter là parce que sinon, c'est les noms qui changent, mais c'est les mêmes politiques, quoi. Et on peut bien en parler parce qu'on voit bien comment ça se passe. Donc, au bout du compte, rire de ça, il me semble, c'est ce qui est à la fois de plus brutal, de moins moral. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est juste moins moral. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'idéologie, à part justement cette chose qu'on nous fait croire qu'on est né dedans et on ne peut pas en bouger, qui est le néolibéralisme, avec toute la concurrence que ça a à voir. Mais surtout, c'est que comme il n'y a plus d'idéologie, alors on nous met les morales à côté. Et c'est ça qui doit nous tenir. Non, il n'y a pas. C'est ça qui est génial avec le rire. C'est qu'en fait, on est impertinent. Et qu'au fond, il n'y a rien de plus. D'ailleurs, en 2015, on a tué des gens parce que, justement, ils savaient faire rire avec ça. Donc, ils savaient mettre le doigt aux endroits où ça fait mal parce que tout d'un coup, on peut en rire. Et que l'art de la représentation, c'est peut-être ça qui est la chose la plus forte, c'est d'avoir le courage d'écrire des choses et de pouvoir rire de ces choses-là et de mettre des visages sur ceux qu'on ne regarde jamais au théâtre. C'est-à-dire ma mère quand elle travaillait à l'usine, la tienne quand elle travaillait au supermarché, tous ces gens-là. Alors on n'a pas le droit de rire d'eux, mais au fond, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que comme on ne peut pas rire d'eux, c'est qu'au fond on ne veut même pas parler d'eux. Je me rappelle sur Cassé, il y avait Marie Peset qui avait fait cette unité c'était à Ivry, hein, souffrance au travail, qui regardait le spectacle et qui disait au fond, il y a rien, enfin, la pertinence de l'écriture de cette pièce, c'est justement ça, le cauchemar. Et qu'est-ce qui représente le cauchemar dans sa forme au théâtre ? C'est la tragicomédie. Et ce n'est pas la tragédie, et ce n'est pas ceux qui vont nous faire dire que le néolibéralisme, c'est mauvais, c'est méchant, et qu'on doit tous le comprendre, et alors qu'on sait tous que les méchants, c'est les mêmes. Quoi. Voilà. Donc, c'est ça que j'aime chez Rémy, c'est qu'il, tout d'un coup, il a le courage de peindre comme ça, de dessiner des personnes et de leur donner cette parole, des personnes à qui n'ont jamais la parole, en tout cas pas au théâtre.
On devait parler du travail, hein, pas de...
Non, mais je parle du travail. Hein. Je parle du travail. Non, je parle pas de mon travail. Je pense que c'est important que l'on parle du travail, qu'on en parle de manière, avec tout le monde, avec plein d'auteurs, c'est super, c'est très bien, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas certains auteurs, justement, qui font rire. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est encore plus fort de faire rire sur des choses dont on n'ose pas rire, mais dont on sait tous que ça existe.
Merci. Comme il nous reste 25 minutes, je vous propose de prendre des questions, en fait, ou des interventions, des remarques que vous auriez à faire. Dans la salle, il y a un micro à chef, normalement, qui doit être en régie là-bas. Donc c'est ma collègue Caroline au milieu qui a le micro.
Tiens, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez, vous, au Festival d'Avignon, un spectacle de théâtre sur le monde du travail ? Dites-moi, quand est-ce qu'il y en a eu un ? Ou plusieurs ?
Dans le in, aucun. Il y en a un sur la finance, mais c'est tout.
Non, mais c'est intéressant. Il y a combien ? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y a combien ?
On en a compté 24, parce qu'on fait le compte.
Dans le off et dans le in.
Un sur la finance.
Super. Sur la finance, vous voyez, ça, c'est vendeur, la finance, en plus.
Oui.
C'est génial. La finance, c'est formidable. C'est les méchants. Donc, évidemment, on va travailler sur la finance. Hein, ça ne nous coûte rien. Vous êtes des financiers ici. Il n'y a personne qui est un financier. Je suis mort de rire.
Oui. Je dois dire qu'il y en a eu plus dans le passé, à une certaine époque, assez réduite. Il y a eu un créneau dans le in qui s'intéressait à certaines pièces, je ne parle pas de Vinaver qui n'a jamais été joué ici.
Voilà, merci.
Il faut quand même le préciser.
Voilà.
Mais il y avait trois pièces en même temps, la même année, ce qui était assez
donc
étonnant.
Ça fait quatre.
Monter une par Thomas.
Ça fait quatre.
Ah non, mais dans l'ensemble, il y en a à peu près une ou deux par an, maximum.
Au Festival d'Avignon.
Dans le in.
Dans le in.
Oui.
Et alors, il faudra me donner la liste parce que je suis vraiment curieux.
Ben, en cherchant, quoi. C'est-à-dire en allant gratter un peu et dans l'économie et dans le monde du travail.
Ouais, ouais. Donc,
ils sont quand même assez étroitement liés.
Ils sont étroitement liés. Enfin, surtout, on en lit plus un que l'autre. On parle plus de la finance que du monde du travail. Je veux dire, donc, ça veut dire qu'on parle plus souvent de l'économie que du monde du travail. On est bien d'accord avec ça.
Non, c'est à peu près moitié-moitié. Mais j'ai toute la liste sur le site de Théâtre et Monde du Travail, on peut le voir. Mais c'est la même chose dans le off. Il y en a très peu. 24 spectacles sur 1592. On voit la proportion.
Non, mais c'est a priori rébarbatif.
D'autres questions, d'autres remarques, interventions ?
Oui, bonjour, j'aurais une question, Rémy DeVos. Ça m'intéresserait de savoir comment... Vous m'entendez pas ?
Très bien.
Ah. Ça m'intéresserait de savoir... Bon, c'était votre tête. Je me suis dit, bon, il y a un petit problème de micro.
Ça fait plaisir.
Est-ce que vous travaillez... vous écrivez à partir d'immersion dans les milieux de travail ? Et si la réponse est oui ? Ça m'intéresserait de savoir si ça génère de la transformation au sein des collectifs, si vous, en fait, c'est pas quelque chose que vous arrivez à palper ou voilà.
Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit directement sur des expériences vécues ou des choses que j'avais pu lire. Par exemple, en 94, je travaillais dans je distribuais le courrier au journal Les Échos le matin, à mi-temps. Oui. Et j'avais la presse à disposition. Donc je rentrais chez moi et je rentrais avec plusieurs. Ça allait de l'UMA jusque de l'autre côté, on va dire. Et j'avais lu un article. Qu'il y avait un parc d'attractions Walibi Schtroumpf qui s'ouvrait en Lorraine et que des jeunes gens dont les parents et eux-mêmes avaient travaillé dans la sidérurgie dans cette Lorraine dévastée avaient retrouvé des emplois, je ne manie pas bien les mots, du travail comme Schtroumpf, quoi, avec le bleu Schtroumpf, quoi. Si c'était mis des trucs bleus. Bon, moi, quand je lis ça, c'est parti. Hein. Là, j'ai écrit un truc sur l'entretien d'embauche pour devenir Schtroumpf. J'ai vécu moi-même des choses. Il y a des choses dans les pièces que j'ai entendues, qu'on m'a dit. Je me souviens très bien de directeur, de chef du personnel me disant, mais alors que je souriais parce que je dois être une nature avec de l'ironie, mais il me menaçait un peu. Et puis il m'avait dit, mais il y a du monde qui attend dehors, vous savez. On n'est pas dans une période qui vous permette de jouer les difficiles. Alors il m'avait vraiment recadré. Bon, je l'avais été viré comme souvent. J'écris maintenant sur des choses comme j'écris seul depuis longtemps. J'écris chez moi, donc je me documente. J'ai des amis, j'ai de la famille. Je suis au courant quand même de ce qui se passe. Mais j'écris seul. Par exemple, la dernière séquence que vous avez entendue, là, sur deux traders, dans la banque, dans les finances, je ne comprends rien. J'ai tout inventé. C'est-à-dire, vous avez inversé les taux probatifs de... Mais oui, pourquoi ? Mais non, je vous ai dit de les... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que au bout d'un moment, je ne vais pas faire des études de finance pour essayer de comprendre les choses. Ce qui m'intéresse, c'est l'anxiété que peut générer un jargon ou des mots qui vont nous échapper. Et les acteurs comprennent ça sans problème. Mais il n'y a rien de logique là-dedans. Donc j'écris en me documentant un peu, mais c'est beaucoup, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça provoque humainement chez les uns et chez les autres. Et c'est vrai que les histoires de burn-out, j'ai appris dernièrement qu'il y avait un bore-out, hein, tu vois, un ennui au travail. Bon, ouais. Et bon, toutes sortes de choses comme ça, j'en entends parler. Je viens de terminer une pièce pour un autre metteur en scène où je me suis replongé justement dans les années 80-90. Elle est plutôt datée dans des choses qui sont liées à l'époque sur le travail. Ça permet de voir aussi ce qui s'est passé depuis 30 ans. Là aussi. Voilà, mais je fais feu de tout bois généralement. Je pars des mois pour écrire la pièce. Donc c'est des commandes. C'est une date butoir et il faut rendre parce que les équipes attendent et c'est... déjà suffisamment anxiogène pour que je n'ai pas à être décontracté. Je n'écris, je ne sais pas, l'être non plus.
D'autres questions, des remarques, d'interventions? Oui, là au milieu, ce crâne, juste là-bas. Levez la main parce qu'elle ne vous a pas vu, je crois, ma collègue ici.
Oui, bonjour. Je suis metteur en scène, en fait, et auteur, et en fait, je réagis à l'analyse que faisait madame au niveau de l'implication des travailleurs dans leur travail, de l'affectivité et de la responsabilisation qu'ils peuvent en avoir. Et moi, j'ai vécu une expérience que j'ai trouvée très belle. Il y a une équipe de travail d'un centre de polyhandicapés qui m'a demandé de travailler avec eux pour parler de leur travail, parce que justement, ils avaient envie de parler de leur travail au grand public et qu'ils trouvaient que le théâtre était une possibilité, enfin, était un média adéquat. Et c'était très, très intéressant de voir justement comment, en général, ben, les travailleurs, les petits travailleurs, n'ont pas l'habitude de pouvoir parler de leur travail et de leurs compétences. Et de se rendre compte à quel point leurs compétences sont riches, sont sensibles. Ici, le pari en plus, c'est qu'ils voulaient porter ça eux-mêmes en tant que personne. Donc on a fait une espèce de conférence là-dessus, mais quand même tout à fait théâtralisée. Voilà, je trouve que c'est une belle richesse. Du coup, on a refait aussi, alors dans notre compagnie, un spectacle sur le travail, mais là... pas en passant par, par le biais d'interviews et sur le chômage. Voilà.
Je pose une question à qui veut bien l'entendre. Parce qu'en vous écoutant, je me disais, finalement, la production cinématographique dans le cinéma, on a quand même progressivement, hein, parce que ce n'est pas non plus quelque chose de central dans le cinéma, mais le travail prend une place de plus en plus grande. Et du coup, je me disais, mais pourquoi vous dites que la question du travail est si peu traitée par le théâtre, dans le théâtre ? Et j'associais, mais peut-être c'est idiot de ma part, j'associais par le fait que le monde du théâtre a, me semble-t-il, des difficultés à se penser comme monde du travail. J'étais étonnée, par exemple, à une époque où, ça remonte maintenant à quelques années, le centre médical de la Bourse, donc qui est médecine du travail, du spectacle vivant, bon, les médecins du travail m'avaient demandé d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que être comédienne, surtout à partir de 50 ans, c'est vraiment très très dur. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un long développement sur pourquoi ça devient effectivement très très dur, mais j'étais très étonnée, par exemple, puisque du coup j'ai rencontré plein de comédiennes, qu'elles puissent répondre non, j'ai jamais eu d'accident du travail. Et puis 10 minutes après, dans la discussion, là, je suis tombée parce que, bon, c'est vrai que les coulisses étaient mal éclairées, etc. Donc, il n'y a pas d'accident du travail, mais j'ai joué avec le plâtre. Ou, ben oui, pendant le festival d'Avignon, là, le service d'oncologie à Avignon est plein. Parce qu'on ne s'arrête pas et on ne peut jamais dire qu'on est malade. Et donc, même si on est en chimio, ben, on va au festival et on poursuit la chimio. Et donc, les hôpitaux s'arrangent et il y a une sous-traitance au niveau de l'hôpital d'Avignon. Enfin, voilà, je me disais, c'est quand même un monde du travail, évidemment, comme tous les autres mondes, parce que c'est ça qui est magnifique, je trouve. C'est ça, enfin, moi, qui me passionne. C'est que le monde du travail, en fait, est fait de plein de mondes. Et les financiers aussi, ils travaillent. Ils s'intéressent pas au travail des autres, mais je pense qu'ils travaillent, c'est leur monde du travail à eux. Il y a plein de mondes du travail différents, et ce monde-là est aussi un monde du travail, mais ça suppose de se... Est-ce que la difficulté, je ne vais pas dire le déni, parce que c'est un peu exagéré, quoi, sous couvert de la vocation, de la passion, de je ne sais pas quoi, du coup, de ne pas penser le boulot comme du travail, et du coup, de ne pas être intéressé, en fait, par la question du travail de manière plus générale, et pas, sauf exception, peu de production, ou peu de programmation, parce que ça peut être un problème de production, ça peut être un problème de programmation, mais je ne sais pas. In fine, en tout cas, on fait ce constat-là, quoi.
C'est juste sur le cinéma et le théâtre. Je pense qu'il ne faut pas nier non plus quand même que le cinéma est né avec le travail industriel, au fond, c'est la même année. Donc le champ du travail apparaît très vite dans le cinéma, soit sous la fiction, soit le documentaire. Et au théâtre, c'est plus complexe parce que le théâtre a un corpus qui s'enrichit tout le temps, enfin qui on réinterprète sans arrêt, enfin qui s'enrichit, ça se discute, mais enfin bon, en tout cas qui est toujours réinterprété, etc. Et le travail n'apparaît pas de la même façon. Et en plus, on a réfléchi avec Nicolas beaucoup sur cette question, parce que en fin de compte, ce qui apparaît de plus en plus dans le cinéma, c'est les luttes sociales dans le travail, ce qui est une chose importante, mais qui n'est pas forcément, on a beaucoup de mal à voir dans le cinéma ce qu'est la tâche, le travail.
C'est-à-dire que ça.
Et de même dans la littérature, on a beaucoup de littérature sur la littérature sociale, dans le travail, beaucoup. Enfin, on en a plus qu'il y en a eu il y a quelques années. Mais on a peu de choses qui viennent sur ce qu'apporte le travail, sur comment le travail nous forme. Il y a un excellent livre dont j'oublie le titre et l'auteur, bon, c'est un peu compliqué, mais qui est un gars qui était. Un intellectuel et qui par goût est allé a suivi un métier pour devenir architecte. C'est un bouquin extrêmement intéressant parce qu'il décrit comment, en étant architecte, enfin en apprenant ce métier, il découvre des aspects savants qu'il n'avait pas vus, et il le découvre par le corps, par le sensible, qu'il n'avait pas vu quand il était simplement étudiant. Si on prend Pontus, on en parlait hier soir, Nicolas, on s'aperçoit, parce que là, ça vient un peu sur les métiers de mon intervention, c'est-à-dire que quand on parle du travail industriel aujourd'hui, par exemple l'agroalimentaire, on a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas de métier, qui sont tout le temps en souffrance et qui n'inventent rien. Quand on lit Pontus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, ce n'est pas uniquement trimballer des carcasses de viande, mais trimballer les carcasses, c'est pas rien. C'est bien Pontus, je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Oui. Hein,
donc, on voit qu'effectivement, il y a des... Mais ça, le problème, c'est qu'il y a peu de choses qui vont fouiller dans ce côté-là, avec la précision qu'on voudrait, et par les auteurs eux-mêmes de cette affaire-là. Donc, on n'est pas vraiment encore au niveau du cinéma. Bon, il y a eu des aventures étonnantes, enfin, on en a tous en tête, avec Louis Malle, avec les groupes Bebenkin, etc., enfin, qui sont des choses très très fortes. Mais, mais encore une fois, le cinéma, ce n'est pas comme le théâtre. Ça, c'est sûr, pour moi, je le sens bien. Voilà, c'est une autre histoire.
Il y a trois questions. Le monsieur-là était en premier, mais vous passez votre tour. Vous êtes galant.
Bonjour, merci. J'ai une info et une question. L'info, c'est qu'il y a une comédie musicale sur le monde du travail dans le spectacle vivant qui est en préparation. Donc, je pourrais vous donner des infos si ça vous intéresse. Et la question qui s'adresse un peu potentiellement à tous les intervenantes et intervenants, c'est que je me souviens d'un échange que j'avais eu avec un ergonome sur la grandeur de l'œuf mimosa, c'est-à-dire comment des ouvrières en cuisine de collectivité mettaient leur créativité et d'elles-mêmes dans la confection chaque jour des œufs mimosa. Et en fait, je trouve que l'approche ergonomique au sens de l'analyse du geste, elle dit des choses... ça m'a assez fasciné finalement cette grandeur des gestes quotidiens. Et je me demande si, si en termes justement de création autour du travail dans le champ théâtral, il y a eu soit des envies, soit des faits sur travailler non pas sur une approche critique du travail, mais plutôt sur la grandeur de ces gestes et la reconnaissance de la grandeur de ces gestes qui peuvent avoir l'air insignifiants, mais qui en fait sont les gestes où les gens... Est-ce que vous avez déjà eu des envies d'écrire là-dessus? Est-ce que vous avez déjà écrit là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? C'est un peu ma question.
Tu as la cuisine de Versker.
Ouais.
Qui est là-dessus, qui est que c'est les gestes dans une cuisine, quoi.
Lapin chasseur.
Lapin chasseur aussi, ouais.
J'ai vu une pièce de... Il s'appelle... Mince. Fin de Louis, là, comment... Pommera, il y a quelques années, où on voyait vraiment le geste du travail. C'était très beau à voir. Je ne sais plus ce que c'était. Mais il y a peu de...
Les marchands.
Oui. Mmh.
Mais ça reste une exception quand même. La question de représenter le geste, l'activité, le métier, comme vous le disiez, Christophe, vous parliez du métier et de l'activité des gens de théâtre, mais les métiers et l'activité du travail en général est finalement très peu représentés. Je parle pas dans le micro. Très peu représentés sur la scène du théâtre. Donc on représente l'organisation, le management, ces choses qui finalement détruisent le travail, produisent de l'emploi, mais détruisent le travail. Et très peu la question du geste. Alors peut-être c'est pas intéressant théâtralement, je ne sais pas. Peut-être au niveau du théâtre, c'est pas intéressant de présenter le geste, le métier, etc. Peut-être c'est chiant, j'en sais rien. Mais ça, c'était bien. J'ai fait théorie parce que j'ai pas du tout pris mon tour de parole. Il y avait deux questions. Bérénice, tu vouliez rebondir?
Mais en fait, c'est un peu lié. Je voulais tout à l'heure revenir sur la question de la différence entre théâtre et cinéma. Mais finalement, l'entrée par la question du geste est une bonne question. En fait, je pense que c'est pas tant une question de différence de médium, mais de différence d'époque et peut-être aussi... de manière d'envisager les choses. C'est-à-dire que concrètement, des spectacles qui représentent le monde du travail, ses luttes sociales, mais aussi ses gestes, il y en a eu, et il y en a eu énormément dans les années 68, justement. Et au même moment qu'il y a eu les groupes Medvedkin, tout comme il y a eu un cinéma militant, il y a eu un théâtre militant. Donc ce qui est en jeu, c'est plutôt la, je vais le dire un petit peu brutalement, mais la dépolitisation des artistes de théâtre. Et le fait qu'il y a aussi une connexion beaucoup plus faible qu'avant, en tout cas par rapport aux années 68, entre les artistes et les syndicats et les partis de gauche et
on va dire la vraie gauche, à la gauche de la gauche, disons. Et c'est ça l'enjeu. Si on prend, par exemple, La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras, qui a été un spectacle absolument phare dans la séquence 68. C'est un théâtre, alors pour le coup, fait par des normaliens, complètement intello, préservés, classe supérieure, mais qui sont allés à la rencontre d'ouvriers en lutte. Et justement, parce que ça aussi, ça a changé dans les modes d'interaction entre les artistes et les gens qui travaillent, ont changé aussi par le fait que c'est plus du tout à égalité, parce qu'il y a un redoublement d'une dissymétrie sociale et d'une dissymétrie professionnelle dans le partage du moment théâtral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des travailleurs qui sont mis en scène et mis sur scène, très souvent, c'est par le biais de dispositifs d'insertion sociale et de projets théâtraux qui sont financés sur des fonds d'action sociale. Quoi. Et donc, du coup, il y a à la fois, ils ne sont pas en possession de leur capacité professionnellement, parce que ce n'est pas des artistes professionnels, et c'est en tant qu'ils sont marginaux socialement, en fragilité, précisément, ils sont étiquetés fragiles, et c'est pour ça, travailleurs étiquetés fragile, et c'est pour ça qu'on vient les chercher, y compris d'ailleurs quand c'est des cadres, parce que ça a existé aussi avec des cadres. Donc je pense que c'est pas du tout une question de médium, et pour le coup dans ce spectacle La Jeune Lune, c'est lié la question des luttes sociales et la question d'un rapport très concret au travail. Dans La Jeune Lune, il y a une séquence géniale théâtralement, parce que bien sûr que la chorégraphie du geste du travail, et notamment du travail manuel, Elle est potentiellement très théâtrale, très, et même aussi chorégraphique. D'ailleurs, Alexandre Roccoli aussi fait un très beau travail chorégraphique. Et pour revenir à La Jeune Lune, il y a cette séquence où, et en plus il y a un vrai enjeu politique derrière, il y a deux ouvrières, dont une jouée là par des comédiens professionnels, et il y en a une qui a envie de rester au travail à la chaîne avec le geste répétitif, et qui continue parce que c'est comme ça qu'elle s'épanouit, en fait, c'est en mobilisant pas son cerveau et en effectuant tout le temps les mêmes gestes, versus l'autre, mais sauf que c'est choisi, hein, c'est une démarche choisie et plus simplement subie, et l'autre qui a envie de faire toute la chemise, et qui donc va coudre le bouton, la boutonnière, et il y aura toutes les parties de la chemise, et donc on voit il y a les deux gestes en contraste, et ça produit une scène très théâtrale, il n'y a pas de problème.
On a encore 3 minutes avant le changement de table ronde. Je pense qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais allez-y. Oui, bonjour.
C'est toujours difficile de parler après une sociologue avec plein de mots savants comme ça. Je me sens... Donc, il se trouve que je suis lorrain et j'habite pas loin de Wallis-et-Schtroumpf, dont parlait Rémi. Ça c'est juste pour parler et en fait je suis militant syndicaliste, justement on réfléchit avec des copains, on est ici pour ça, il y a des auteurs qui écrivent sur le monde du travail, sur les travailleurs, il y a des metteurs en scène qui montent des spectacles sur le monde du travail, sur les travailleurs, mais comment on va réconcilier les deux mondes là, donc les auteurs, les auteurs, les metteurs en scène et les travailleurs? Comment ramener les travailleurs à voir des spectacles qui parlent d'eux et de leur monde? C'est ça la question que je pose.
Ouais, enfin, j'en profite pour dire que tout à l'heure, Christophe m'a parlé de courage d'écrire ce genre de choses. Moi, de mon côté, je ne ressens pas ça. Par contre, il faut un certain sens, courage c'est un grand mot, mais un sens du risque certain de les mettre en scène. Parce que franchement, c'est... C'est un peu héroïque, parce que moi, j'écris ce que je veux, et puis on intervient. Mais on est en but à beaucoup
mais moi, je monte ce que je veux.
Tu les montes, et puis merci, quoi. C'est quand même... Y a quand même, je sais que s'il n'y avait pas cette force de frappe-là, ces textes-là ne n'aboutiraient pas.
Ça sera la dernière question, je suis désolé.
Moi, ce que je... Nous, on a fait, justement... le spectacle, la commande que j'avais fait avec Rémi avec les jeunes acteurs qui sortaient de l'école, c'est ben oui mais enfin bon, c'était sur le monde du travail dans l'entreprise, et c'est un spectacle qu'on a fait pour tourner sur le territoire, donc qui est allé à la rencontre de beaucoup de publics qui n'ont pas l'habitude ou qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas forcément les moyens parce qu'ils sont dans les zones blanches, comme le dit l'État, dans les trous de la raquette, comme le dit le président de région des Hauts-de-France. Donc, ils n'ont pas la possibilité de venir et d'aller jusqu'à Lille ou à Tourcoing. Donc, ça a été un événement très, très formateur pour eux et puis très fort pour nous tous. C'est-à-dire ceux qui ont fait le spectacle avec moi et puis ceux qui l'ont vu dans des lieux tout à fait improbables, en passant du gymnase, la salle des fêtes, à des petites salles de théâtre, quoi.
C'est vraiment la dernière des dernières questions, parce qu'après je vais me faire gronder.
Je voulais répondre par rapport à la question que posait madame, par rapport au fait que les comédiens ou les artistes ne se sentaient pas toujours des travailleurs. Je pense qu'une des raisons est le fait qu'ils ne sont pas reconnus comme des travailleurs. Enfin, bon, moi je suis belge, je parle en Belgique, mais quand on voit tout le rapport qu'on a avec le chômage et au fait qu'au chômage on n'est pas du tout pris en considération, qu'il n'y a toujours pas de statut chez nous, mais qu'on n'est pas pris en considération et que donc on nous propose des choses qui n'ont rien à voir avec le métier et on nous dit mais il y a un moment où vous devez prendre un emploi sérieux et prendre vos responsabilités. D'ailleurs c'est sur ça notamment qu'on a fait le spectacle qu'on joue ici. Que d'autre part aussi par rapport au fait qu'on voit moins de travailleurs dans le théâtre, je pense que ça tient aussi à la paupérisation du métier qui fait que les gens qui sont comédiens ou metteurs en scène ont derrière eux des familles qui peuvent leur permettre de vivre une vie très très aventureuse au niveau financier et donc c'est un milieu qui est beaucoup moins représenté et donc les travailleurs, les fils de travailleurs, les fils de sidérurgistes, etc., sont très très peu nombreux dans le monde du travail et je pense dans le monde du théâtre et je pense que c'est une des raisons sociologiques qui fait que il y a une tendance comme ça. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que donc nous on met en scène un travailleur et on fait du spectacle aussi où on va chez les gens, carrément chez l'habitant, on fait pas que ça, mais on le fait en se disant là on va vraiment et on contacte des personnes qui ne vont jamais au théâtre et des milieux tout à fait différents.
Non mais ça c'est formidable, ça, hein. Je suis pas en train de dire que je suis
Je disais que c'est, je suis d'accord que c'est vraiment une des manières d'atteindre ailleurs un public qui en effet ne vient pas au théâtre.
Merci voilà, beaucoup, merci. On va vraiment rester là. Merci à Christophe Roque, à Rémi Devos et à Dominique Bullier. Merci. Et c'est toujours un exercice de frustration de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais on garde notamment votre question en tête sur retisser des liens entre le monde du travail et le monde du théâtre pour en rediscuter. Place à la seconde table ronde. Merci beaucoup. Merci.